Je vous invite donc à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Et nous allons lire et voir la lettre ou le message adressé à l'église de Smyrne. Nous avons déjà souligné que la clé pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est de bien comprendre le chapitre premier. Et on vient de passer plusieurs semaines, 7 ou 8, je crois, sur le chapitre premier qui met en évidence que le Seigneur Jésus-Christ est souverain, souverain sur toute chose, souverain sur l'histoire, souverain sur son Église, et qu'il est au milieu de son Église, il se tient au milieu des 7 chandeliers. D'or. Et là, maintenant, dans les chapitres 2 et 3, nous avons les lettres ou les messages adressés aux 7 églises en Asie. Nous avons souligné que le chiffre 7 décrit non seulement 7 églises bien réelles, mais il n'y avait pas que 7 églises en Asie, il y avait bien plus. Et que les chiffres 7, comme les chiffres dans le livre de l'Apocalypse, sont symboliques. Et le chiffre 7 parle de quelque chose qui est complet, de parfait, et donc décrit l'Église tout entière, l'Église tout au long de son histoire. Et nous avons eu la semaine dernière le message à l'Église d'Éphèse, et ce matin nous voulons voir le message à l'Église de Smyrne, et nous allons lire les versets 8 à 11. Apocalypse 2, à partir du verset 8. Et le Seigneur Jésus dit à Jean, « Écris à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » En l'an 154, certains disent 155, il y avait un homme qui s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe était un disciple, premier mot sur la feuille, un disciple de Jean. Et il était aussi le responsable de cette église à Smyrne. Et dans cette année-là, il a été arrêté, condamné, parce qu'il a refusé de dire que César est Seigneur. Et le proconsul romain le presse en ces termes. Il dit, mais jure et je te laisse aller. Maudit le Christ. Et Polycarpe répond, je l'ai servi 86 ans et il ne m'a jamais fait de tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Et ça se passe donc 60 ans après le message que Jésus donne à Jean, et ce message qui s'adresse à l'église de Smyrne, dans lequel Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quand Jean reçoit cette vision de la part de Jésus et ce message, Polycarpe avait à peu près 27 ans. Et il est fort probable que Polycarpe soit déjà présent dans l'église de Smyrne quand cette lettre de l'Apocalypse a été circulée dans les différentes églises. Et peut-être même que c'était Polycarpe lui-même qui, en tant que responsable, a lu cette lettre de l'Apocalypse et ces quelques mots qui sont adressés à l'église de Smyrne. Mais de toute façon, il n'y a aucun doute que Polycarpe, à la fin de sa vie, maintenant âgé, se rappelle de ses paroles alors qu'il est sur le point d'être mis à mort sur le bûcher. Et il dit au proconsul romain, il lui dit, « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et peu de temps après s'éteint. car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. » Et peu après, le peuple de Smyrne, et en particulier la communauté juive, se mit à entasser les fagots, et Polycarpe mourut sur le bûcher. L'obéissance de Polycarpe et son témoignage nous rappellent que ce livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit de manière abstraite. Ça ne parle pas simplement de choses et de circonstances futures, lointaines, mais ce livre s'adresse, a été donné par le Seigneur Jésus-Christ à son Église pour répondre aux besoins réels auxquels les chrétiens faisaient face et font face aujourd'hui. Et cela même était vrai pour le temps, au temps de l'apôtre Jean. Et ce livre fait la même chose, comme nous l'avons déjà souligné, pour nous aujourd'hui. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à son peuple. Quelques mots simplement pour le contexte, pour parler de Smyrne. Smyrne, apparemment, était un véritable joyau. Se trouve au nord d'Éphèse et sur la côte de la mer Égée. Et Smyrne et Éphèse se battaient dans un certain sens pour savoir qui est-ce qui allait être appelé la plus belle ville de la région romaine qu'on appelle Asie. C'était une ville d'environ 200 000 habitants qui possédait un port qui était protégé. Et c'est une ville qui était dominée par une colline du nom de Pagos. Et sur cette colline, il y avait un quartier chic, un quartier huppé. Et ce quartier était appelé la couronne de Smyrne. Deuxième mot sur la feuille. La couronne de Smyrne. Et cette ville a été établie vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais elle a été détruite quelques 400 ans plus tard, vers 600 avant Jésus-Christ, et reconstruite encore ensuite d'après les plans d'Alexandre le Grand, mais après la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a visité, a dessiné des plans, mais c'est après sa mort que la ville a été reconstruite. Et dans cette ville se sont installés beaucoup de juifs qui étaient intéressés par la possibilité de faire du commerce. Et vers l'an 199 avant Jésus-Christ, la ville s'est rapprochée de cette puissance montante qui était Rome. Et c'était une des premières villes grecques, d'ailleurs, à s'allier avec Rome. Et plusieurs ont rendu témoignage que cette ville était reconnue comme étant particulièrement loyale et fidèle à Rome. Et étant donné cette loyauté de Smyrne à Rome et au culte de l'empereur, on pourrait bien sûr s'attendre à ce que l'Église dans cette ville soit particulièrement vulnérable aux persécutions de l'empereur, et particulièrement d'un empereur comme Domitien, qui était sur le point d'envoyer une tribulation sur ceux qui ne se prosterneraient pas devant son image. Mais l'Église de Smyrne, je pense que vous l'avez remarqué, reçoit le message le plus court adressé aux sept églises. Mais c'est un message dans lequel il n'y a aucun reproche. Alors que les autres, il y a encore une exception qu'on verra plus tard, mais les autres lettres ont toujours une reproche où le Seigneur dit, commence par la louange, comme nous avons vu à Éphèse, et ensuite il dit, mais j'ai ceci contre toi, ou j'ai quelque chose contre toi. Et il fait un reproche et il corrige. Ici, non. Et le fait que cette lettre soit courte semble aussi indiquer que le Seigneur se concentre sur l'essentiel parce que la persécution arrive et elle va s'accroître. Et c'est urgent de transmettre ce message à l'Église de Smyrne. Et donc, puisqu'il n'y a pas de reproche, ce ne sera pas le même plan que la semaine dernière. Mais il y a trois points. Il n'y a pas quatre. Il y a trois points. Et tout d'abord, le premier point, le Seigneur montre qu'il connaît la tribulation de l'Église. Troisième mot sur la feuille. Il connaît la tribulation de l'Église et il le dit sous trois formes. Il dit que cette tribulation, elle existe sous trois formes. Tout d'abord, il parle de la pauvreté. Quand Jésus s'est adressé à l'Église d'Éphèse, et il avait dit au chapitre 2, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Ici, il s'adresse à l'Église de Smyrne et il dit « Je connais ton affliction ou ta tribulation. » Ce mot signifie être sous une grande pression, sous un poids qui contraint, qui est contraignant. Cette Église vivait sous une oppression. Et ce n'est pas surprenant de voir quand on voit les circonstances, que la première forme de tribulation que Jésus souligne, c'est la pauvreté. Et la raison de cette pauvreté, c'est que pour participer à la vie économique et la vie sociale et éventuellement espérer gravir les échelons de la vie sociale à Smyrne, on ne pouvait le faire qu'en participant d'une certaine manière au culte romain, au culte de l'empereur, ce que les croyants, bien sûr, refusaient de faire. Et on voit que le Seigneur est tellement positif par rapport à cette Église. Le terme « pauvreté », quatrième mot sur la feuille, ne veut pas dire qu'il manquait de certaines richesses, mais il manquait de choses essentielles. Il manquait de choses élémentaires pour vivre. Et ils étaient prêts à endurer cela, parce qu'ils étaient décidés à vivre une vie pour le Seigneur et à ne pas plier le genou devant les idoles de ce monde. Et nous aussi, c'est un exemple pour nous. Trop souvent, il y a des choses qui sont légitimes, mais qui prennent la première place. Nous avons déjà vu cela par rapport à ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse, où il exhorte, où il reprend l'église parce qu'elle a perdu son premier amour. Et ici, c'est d'une autre manière de dire qu'il y a des choses qui prennent la première place et qui sont légitimes, mais trop souvent, nous n'acceptons pas de nous manquer de certaines choses en restant fidèles au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul utilise ce terme de pauvreté en 2 Corinthiens 8, 9, quand il dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » L'exemple du Seigneur Jésus-Christ et l'exemple de l'Église de Smyrne condamnent ce que nous entendons aujourd'hui dans beaucoup de milieux que l'on pourrait appeler l'évangile de la prospérité. Et des personnes aujourd'hui qui affirment que ce que Dieu veut pour son peuple, ce sont les richesses terrestres. C'est une belle maison, c'est une belle voiture, la santé à toute épreuve, un compte en banque fourni. Et ils disent que si l'on n'a pas ces choses, c'est parce que l'on ne croit pas en Jésus, c'est parce que notre foi est faible. Et c'est surtout parce qu'on n'a pas soutenu leur ministère. Et on entend le langage suivant, ils disent qu'il faut semer une semence de 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Il faut regarder à Jésus pour la recherche, mais il faut surtout donner cette semence à leur association ou leur organisation. Est-ce qu'on peut accuser les croyants à Smyrne de manquer de foi? Non. Mais ils ont accepté de vivre dans la pauvreté, de manquer de certaines choses, de manquer même de l'essentiel, à cause de leur foi, à cause de leur obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Je connais ta pauvreté. Deuxième tribulation, ce sont les calomnies. Cinquième mot sur la feuille. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La principale cause de persécution était l'attitude de la communauté juive installée à Smyrne. Et on peut voir deux raisons à cela, ou deux raisons principales. On peut très bien imaginer que Jean ait fait comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'en arrivant à Smyrne, il soit allé d'abord à la synagogue. S'il a fait comme Paul, il a prêché l'évangile. Et il aura montré, à partir de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme pour l'apôtre Paul, la plupart des Juifs ne peuvent accepter cela, ne peuvent pas accepter un Messie qui soit crucifié, ne peuvent pas accepter un Sauveur qui soit mis à mort. Et ils ont persécuté les chrétiens. Mais il y a aussi le fait que la communauté juive à Smyrne aimait beaucoup les privilèges spéciaux qu'ils avaient sous l'Empire romain. Comment est-ce qu'un juif peut vivre dans une ville où il faut adorer César? En fait, les juifs avaient un droit spécial et n'étaient pas obligés de le faire. Dans la guerre civile romaine, Jérusalem avait pris position pour Jules César contre Pompée en l'an 50 avant Jésus-Christ. Et l'une des choses que Jules César avait donné au peuple juif, c'était le privilège de ne pas être obligé d'adorer l'idole de César. Et aussi longtemps qu'ils offraient des prières pour César dans les synagogues, c'était suffisant. Ils n'étaient pas obligés d'adorer l'idole de César. Mais les Juifs ne voulaient pas que les chrétiens aient ce privilège. Ils ne voulaient pas qu'il y ait confusion entre la communauté juive et cette nouvelle communauté chrétienne. Et ils ont dénoncé les chrétiens, ils ont dénoncé ces croyants qui pourtant, pour la plupart, étaient aussi d'origine juive. Mais ils ont dénoncé les chrétiens comme ils ont dénoncé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont, l'ont amené aux autorités romaines. Ils ont fait aux disciples ce qu'ils ont fait au maître. Ils ont dénoncé les chrétiens. Certains calomniaient les chrétiens en disant qu'ils n'étaient pas fidèles à la parole de Dieu, que Jésus n'était pas le Messie. Mais il y a aussi d'autres calomnies. On disait que les chrétiens, par exemple, étaient des cannibales, qu'ils avaient des orgies où ils mangeaient de la chair humaine. Alors bien sûr, il faisait allusion au langage de Jean 6, où Jésus dit « Si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang », il parle de la scène, il parle de la relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, dans ce langage imagé. Quand on mange, quand on boit, c'est personnel, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous le faire à notre place. Il parle de la foi personnelle. C'est intéressant que certains musulmans aujourd'hui utilisent ce même argument. On disait que les chrétiens étaient des pyromanes parce qu'ils enseignaient que ce monde allait voir une fin dans un jugement de feu. Toutes sortes d'arguments. Mais le Seigneur Jésus dit ici que ces personnes qui se disent juives ne sont en réalité pas de vrais juifs. Et en fait, on se rappelle ce que Paul dit en Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Et nous lisons, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Ce n'est pas l'ethnicité qui fait de quelqu'un un vrai croyant. Ce n'est pas la généalogie qui fait de quelqu'un un croyant. Le peuple de Dieu n'est pas défini de manière généalogique, mais de manière christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. En dehors de Christ, en réalité, il n'y a pas de vrai judaïsme. Tout l'Ancien Testament pointe les regards vers Christ. Et quand on relit la lettre, par exemple, aux Hébreux, mais tout le Nouveau Testament l'explique, mais en particulier la lettre aux Hébreux, montre que le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les ombres qu'il y a dans l'Ancien Testament. Dieu a donné des ombres pour montrer qu'il allait venir quelqu'un de bien meilleur, le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens étaient calomniés par ceux qui se disaient juifs, mais qui, aux yeux de Dieu, ne l'était pas. Et la troisième tribulation, c'est l'emprisonnement, sixième mot sur la feuille, l'emprisonnement. Quand on parle d'emprisonnement, c'était en vue d'être exécuté au temps des Romains. L'emprisonnement, ce n'était pas pour des périodes longues. On parlait plutôt à ce moment-là d'exil, comme Jean sur l'île de Patmos. Quand on parle d'emprisonnement, c'était en vue d'une exécution. Être jeté en prison, cela voulait dire être bientôt mis à mort. Et toutes ces formes donc de tribulation, la pauvreté parce que les croyants sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ, la calomnie, l'emprisonnement, l'exécution, sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. Quand on lit, quand on regarde sur ce globe, dans ce monde, dans des pays autour de nous ou plus loin, des pays qui sont encore sous l'influence communiste ou des pays sous l'influence de l'islam, on voit que les croyants, les chrétiens, sont empêchés d'avoir accès à l'éducation, de jouer un rôle important dans le monde économique. Parce qu'ils refusent de renoncer à Christ. Quand il s'agit de la calomnie, jusqu'à récemment, on l'a déjà souligné, même si le monde n'aimait pas les chrétiens, il les considérait comme des personnes de bonne moralité, des personnes dignes de confiance. Aujourd'hui, suite en particulier au lobbying du monde homosexuel, et à la demande de tolérance de toutes sortes de perversités, le monde décrit les chrétiens comme étant des personnes remplies de haine, parce qu'elles affirment que cette pratique est mauvaise, même si les chrétiens ne font aucun mal et ne veulent pas le mal de ces personnes, sont plutôt prêtes à les aider. Mais le monde décrit les chrétiens comme étant des personnes remplies de haine, alors que nous voulons les voir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et vivre. Il faut très bien imaginer que dans un futur, peut-être même pas si lointain, même la lecture de certains passages de la Bible pourrait être considérée comme un crime, comme étant un langage de haine. Qu'est-ce qu'il en est de l'emprisonnement? Qu'est-ce qu'il en est de l'exécution? Dans beaucoup d'endroits, en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, plus loin, des croyants sont emprisonnés du jour au lendemain, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et même ici en Occident, on voit l'influence chrétienne qui diminue, et on voit ce néopaganisme qui grandit dans la société, et la société qui s'oppose toujours plus au message de la parole de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un événement aux États-Unis. C'était aux alentours de 2012-2013, une maison d'édition chrétienne, Tyndale House, qui s'est vue infliger une amende de 1 000 $ par jour parce qu'elle refusait d'inclure dans sa police d'assurance le remboursement de la pilule pour l'avortement. Et apparemment, d'après les documents, j'ai pas eu le temps de regarder tous les documents, mais apparemment, ça fait partie de cette assurance qu'a mis en place le président Obama, qui oblige les employeurs, quelle que soit leur conviction morale, leur conviction religieuse, d'assurer une police, une couverture maladie qui prend en compte le remboursement des pilules avortées. Steve. Merci. Donc cette maison d'édition a refusé. Bon, apparemment, les avocats s'y sont mêlés et ils ont trouvé une faille l'État n'a pas poursuivi. Donc n'a pas insisté pour que il paye cette amende. Mais voilà ce qui se passe. Et ça, c'est 2012-2013. Et ça se passe tout au long de l'histoire et ça va continuer encore aujourd'hui. Paul l'avait dit en 2 Timothée 3, verset 12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Jésus dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation. Je connais ta tribulation. Mais en soulignant que les souffrances à Smyrne viendraient essentiellement à travers les accusations de la communauté juive, Jésus ne dit pas simplement que ces personnes se disent juives mais ne le sont pas. Il dit que ces personnes sont une synagogue de Satan. Septième mot sur la feuille. Ils sont une synagogue de Satan. C'est un langage qui est très dur. C'est un langage qui est très fort, c'est un langage qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Et certains vont dire, bien sûr, ben c'est un langage antisémite. Mais n'oublions pas que Jésus vient de Nazareth. Qu'il est sémite. Il est sémite, tout comme Jean. Et il ne haïssait pas le peuple juif. Et aujourd'hui, le peuple chrétien ne peut pas haïr le peuple juif. Mais rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus s'adresse aux pharisiens qui s'opposent à lui et il dit qu'ils ont pour père le diable. Le plus grand péché, si on peut parler ainsi, c'est que lorsque le Seigneur Jésus a vraiment manifesté qu'il était le Messie, qu'il accomplissait des miracles prouvant qu'il possédait la puissance de Dieu, qu'il parlait avec autorité. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que les religieux juifs voulaient le supprimer. Et quand il a, après la résurrection de Lazare, quand il a prouvé sa puissance, on lit en Jean 12, verset 10, que les juifs voulaient aussi éliminer Lazare. Ils voulaient éliminer la preuve de la puissance de Jésus et de son autorité comme Messie, comme Sauveur. Et en Jean 8, 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous êtes, dit le Seigneur Jésus-Christ, une synagogue de Satan. Ces juifs calomniateurs se disaient une synagogue de Dieu, mais ils ne réalisaient sans doute pas qu'ils servaient le diable. En particulier quand c'est par leur dénonciation que les chrétiens étaient arrêtés et mis à mort. Et l'histoire rapporte que c'est la communauté juive qui a amené Polycarpe devant les Romains. Les récits soulignent que la synagogue a même donné la permission de violer le sabbat, de travailler un jour de sabbat, de porter le bois, de porter les fagots pour les amener au pied du bûcher de Polycarpe. Il n'est pas étonnant que Jésus les associe avec le nom de Satan, un titre du diable qui signifie l'accusateur des élus, celui qui accuse les élus. Un commentateur va encore plus loin. Et il pose la question suivante. Il dit, comment peut-on alors prétendre que de nos jours, les Juifs sont encore d'une manière toute particulière et glorieuse le peuple de Dieu? Dans certains milieux, un accent, beaucoup pensent que Israël a encore une place dans le plan de Dieu. Bien sûr, Dieu est capable et peut et sauve des hommes et des femmes jeunes et moins jeunes parmi le peuple juif. Mais ce commentateur poursuit et dit, Dieu lui-même appelle ceux qui rejettent le Sauveur et persécutent les vrais croyants la synagogue de Satan. Ils ont cessé d'être son peuple. Et Jésus poursuit au verset 10 et dit, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Certains vont se dire, j'ai de la chance de ne pas vivre à Smyrne. Mais en fait, pour nous, c'est un rappel que nous avons un ennemi qui est coriace, qui est rempli de malice, rempli de puissance, qui veut faire la même chose pour nous qu'il a faite aux chrétiens du premier siècle. Et s'il a l'occasion, il le fera. Jésus veut nous montrer que dans les affaires de ce monde, on y voit la main du diable, on y voit la main de Satan, qui est contre l'Église, contre les croyants. Mais en même temps, tout ce livre, comme nous l'avons déjà souligné, insiste que Satan ne peut rien faire sans l'accord de celui qui est le seul vrai souverain, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Jésus va utiliser les machinations de Satan pour faire adverser son propre dessein. Jésus voit l'Église, il connaît son Église, et il sait que c'est une Église persécutée, une Église affligée, une Église qui connaît la tribulation. Je connais ton affliction. Le deuxième point, c'est que Jésus ne donne pas d'avertissement, comme nous l'avons déjà dit, et comme il le fait dans la plupart des autres églises, pour la plupart des autres églises, il donne ici un encouragement, huitième mot sur la feuille. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est un encouragement. Sur quelle base Jésus peut-il dire cela? Il va le dire sur la base, c'est lui-même en fait. Regardez ce qu'il dit au début de ce message. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà la base pour laquelle les croyants ne doivent pas avoir peur. Jésus offre l'espoir, il offre la victoire dans sa personne à ceux qui sont à lui. Trois raisons. La première raison pour laquelle les croyants ne doivent pas avoir peur, c'est parce que Jésus est le premier, neuvième mot sur la feuille, et le dernier. Il est le premier et le dernier. Certains commentateurs disent que c'est une remarque ironique, parce que Smyrne était une ville où tout le monde voulait s'élever dans la société. Chacun voulait être le premier, un peu comme aujourd'hui. Chacun veut être le premier. On ne veut pas être le dernier, on ne veut surtout pas être le second. Donc on fait tout pour être le premier. Mais Jésus dit, je suis le premier et le dernier. On a déjà vu que cette expression a été utilisée au chapitre 1er par Dieu le Père lui-même, chapitre 1er, verset 8, et puis ensuite le Seigneur Jésus. Au chapitre 1er aussi, et puis ici donc au verset 8 du chapitre 2. Et nous avons dit que cette expression « je suis le premier et le dernier » est une expression qui décrit la souveraineté. Si Jésus est le premier et le dernier, alors il est souverain de tout ce qui est entre. Il affirme être le souverain de toutes choses, et en particulier il est souverain de ce qui se passe, des tribulations. Ces tribulations ont un sens qu'il va nous donner. Elles vont apporter une bénédiction à son peuple. Et donc, les croyants, nous qui aujourd'hui, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur, même des tribulations les plus terribles. Pourquoi? Parce que Jésus est le premier et le dernier. Parce qu'il est souverain sur toutes choses. Il est absolument souverain. La deuxième raison pour laquelle les croyants ne devraient pas avoir peur, c'est que Jésus-Christ est celui qui donne la vie, dixième mot sur la feuille. Il est celui qui a vaincu la mort, verset 8, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et pour certains commentateurs, c'est encore une autre expression ironique pour Smyrne, parce que la ville, comme j'ai dit au début, s'enorgueillissait d'avoir été morte et d'être revenue à la vie. Elle a été détruite et elle a été reconstruite encore plus glorieuse, plus resplendissante, d'après les plans d'Alexandre le Grand. Et Jésus dit, tout ça c'est rien. Tout ça ce n'est rien comparé à sa mort pour le péché, à sa résurrection pour la vie éternelle, à ce qu'il a fait pour libérer son peuple du monde, de la condamnation du péché et pour l'amener à la gloire éternelle. Jésus dit à l'Église qu'il a déjà connu le pire de ce que le monde pouvait offrir. Parfois, on passe par des moments difficiles et on crie au Seigneur, « Ce monde me fait mal !» Et le Seigneur nous répond, « Inutile de me l'apprendre, je le sais. » Mais lui a triomphé du mal. Il a triomphé du monde. Il a vaincu la mort. Et nous aussi, si nous sommes unis à lui par la foi, nous recevons la vie. Ne craignez pas, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Un commentateur dit ceci, Jésus dit à son Église, « Je suis passé par le territoire de la mort et j'ai retiré la terreur pour tout mon peuple. La seule chose qui vous attend de l'autre côté maintenant, c'est de tenir ma main alors que nous marcherons ensemble dans la joie de la résurrection. » Jésus est le Seigneur de la vie, il est le vainqueur de la mort. Paul le dira d'une autre manière en 2 Corinthiens 4, verset 17. Il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4, 17. La deuxième raison, donc, pour ne pas avoir peur, c'est que Jésus est celui qui donne la vie. La troisième raison pour ne pas avoir peur, c'est que Jésus est celui qui supervise, 11e mot sur la feuille, qui supervise les souffrances de son peuple. Il dit au verset 9, « Je connais ». Qu'est-ce qu'il connaît ? En particulier, verset 10, il dit que vous aurez une tribulation de 10 jours. Comment est-ce qu'il connaît la durée de la tribulation ? Il connaît la durée de la tribulation parce que c'est lui qui l'amène. C'est lui qui amène cette tribulation. César, lui, ne fait que accomplir, que servir le dessein de Dieu. Et comment Jésus peut-il faire cela ? Il le fait pour le bien de son peuple. Jésus a déjà prouvé qu'il ne veut que notre bien. Il l'a fait en mourant sur la croix, en allant sur la croix portant nos péchés. Et maintenant, par son contrôle souverain, il va délimiter, il va limiter la durée, l'intensité de l'épreuve. Ce ne sera jamais au-delà de ce que nous pouvons endurer. Il déclare le début et la fin de l'épreuve. Il y aura un 11e jour sans tribulation, parce que Jésus l'a décidé. La tribulation ne dure que 10 jours. Cette expression, comme nous l'avons déjà souligné dans l'Apocalypse, n'est pas à prendre au sens littéral, c'est symbolique d'une période qui est limitée, qui est courte, c'est une vraie période, mais qui va se terminer, qui est limitée dans le temps. Il y a aussi un autre sens dans lequel Jésus utilise le nombre 10. On se rappelle ce lien privilégié qu'on a déjà souligné en voyant le chapitre 1er, le lien privilégié de l'Apocalypse avec le livre de Daniel. Nous avons lu tout à l'heure le chapitre 1er. Et Daniel et ses amis ont été emmenés à Babylone et ils étaient amenés dans la cour du roi de Nebuchadnezzar. Et ils ne voulaient pas manger les aliments et boire le vin de la table du roi. Ils ont été mis à l'épreuve pendant 10 jours. Voilà, ils ont été mis à l'épreuve pendant 10 jours. Et en Daniel 1,15, nous avons lu, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et avec ce parallèle, Jésus ne dit pas simplement qu'il a supervisé l'épreuve, mais qu'il va transformer l'épreuve en bénédiction. Vous allez être comme Daniel et ses amis. Vous allez sortir de l'épreuve plus fort. Vous allez pouvoir donner un témoignage de la puissance de notre Dieu qui délivre, qui fortifie, qui protège son peuple. On a un autre parallèle avec Daniel dans le chapitre 3 cette fois-ci. Vous connaissez l'histoire. Nebuchadnezzar a fait une grande statue d'or de plus de 30 mètres de haut. Et tout le monde devait se prosterner et adorer cette statue. Les amis de Daniel ne l'ont pas fait. Nebuchadnezzar les menace de les jeter dans la fournaise. Et ils répondent, Daniel 3, verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ses amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, savaient qu'il y avait une vie après la mort. Et donc, ils ne plieraient pas le genou devant le roi de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar va les jeter dans la fournaise, après l'avoir fait chauffer encore 7 fois plus. Et tous ceux qui ont regardé ont vu, mais ils n'ont pas vu 3 hommes dans la fournaise. Ils en ont vu 4. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et on peut penser que Polycarpe se soit rappelé de ça, alors qu'il était sur le bûcher. Il savait que son corps allait être détruit, mais que le Seigneur Jésus-Christ allait être avec lui dans le feu, qu'il allait le rendre capable de témoigner de la puissance de Dieu pour qui délivre son peuple. On peut penser aux paroles d'Ésaïe 43, versets 2 et 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il est au milieu de nous, au milieu de son peuple, dans l'épreuve. Il se tient avec son peuple. Il ne nous abandonne pas. Si nous sommes à lui, si nous le connaissons, il est au milieu de nous, il est au milieu de son peuple et au milieu de son Église. Quand Jésus déclare son autorité sur l'épreuve, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de l'épreuve, de son intensité et de sa durée, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi une épreuve ? Pourquoi ? Quel est le but ? Quel est le but de l'épreuve ? Et il nous le dit ici, c'est afin que vous soyez, au verset 10, afin que vous soyez éprouvés. 12e mot sur la feuille. Afin que vous soyez éprouvés. Et de manière de considérer les chrétiens dont la foi a été éprouvée par l'épreuve. La première, c'est de considérer l'épreuve comme la façon de révéler que notre foi, que notre salut est authentique. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 1, versets 6 et 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un chrétien devrait se réjouir dans ces épreuves. Pourquoi ? Parce qu'elles vont révéler l'authenticité de notre foi, de notre salut. Les vrais croyants réussiront le test de la tribulation en tenant ferme par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se disent croyants, qui en réalité ne connaissent pas le salut, vont se révéler au milieu de l'épreuve quand ils s'éloignent de Jésus-Christ, quand la persécution les touche et qu'il renonce. L'épreuve sert à prouver, à démontrer l'authenticité de la foi. Mais la seconde manière de parler de notre foi comme étant éprouvée, c'est de parler de la foi qui devient plus forte, plus pure. Paul écrit par exemple aux Romains, chapitre 5, et versets 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Quand le chrétien fait face à une épreuve, il devrait se dire qu'il n'est pas surpris par cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il a un Dieu qui a de plus grandes choses en réserve pour lui. C'est vrai, on peut être nerveux à l'idée de l'épreuve parce qu'on connaît notre faiblesse, mais on va lui faire confiance. On peut lui faire confiance et on peut attendre le bien de ce que Dieu va retirer de cette épreuve pour nous. Nous allons ressortir de cette épreuve plus fort, avec une persévérance plus affermie. On a cité tout à l'heure 1 Pierre 1, 6 et 7. Pierre utilise cette image de la foi qui est éprouvée comme l'or qui est éprouvé par le feu. Cette image parle aussi de purification. Le fondeur va enlever les scories, les imperfections, et les épreuves agissent de cette manière-là. Elles vont enlever les imperfections de notre foi, enlever ce péché qui s'attache si facilement à nous, qui nous amène surtout à réfléchir de la manière dont ce monde réfléchit et à oublier la parole de Dieu. Mais c'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Et il va répéter le processus, comme le fondeur répète le processus. Il enlève les imperfections pour purifier ce métal qu'il est là. Quand est-ce que le fondeur va s'arrêter ? Le fondeur va s'arrêter quand il va regarder ce métal et qu'il va voir le reflet de son visage. Là, il sait que le métal est parfait et pur. Et le Seigneur Jésus-Christ fait la même chose. Il nous éprouve, il teste, il nous purifie. Et il arrêtera quand il verra l'image de sa sainteté en nous, quand l'impureté sera enlevée par le feu de l'épreuve, et quand nous serons dans la gloire, rendus parfaits. Le Seigneur Jésus connaît la tribulation, connaît la situation de son Église. Il donne une exhortation. Troisièmement, il donne un encouragement. Troisièmement, il va donner une exhortation, 13e mot sur la feuille. Verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Les croyants ne doivent pas simplement se contenter de regarder à la souffrance et essayer de ne pas être submergés par elle, mais ils doivent regarder au travers de l'épreuve et voir le Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Voir le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu pour nous. Voir le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie à son peuple et qui va utiliser l'épreuve pour notre bien. Et donc le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à l'Église et dit « Sois fidèle pendant cette durée, cette épreuve de 10 jours, cette épreuve courte. » Un commentateur qui, quand il parle de, commente sur ce point, parle de la fidélité, il dit « Être fidèle en 2 points. » Tout d'abord, tenir ferme ce qui nous a été donné, c'est-à-dire l'Évangile, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a confié à l'Église. C'est la vérité de Dieu, la vérité concernant Dieu, comme lui-même l'a révélé dans sa parole. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire de compromis. C'est pour ça qu'il est important de ne pas renoncer à ce que la parole de Dieu dit, à ces vérités que le monde voudrait voir disparaître. Mais nous devons tenir ferme, nous devons proclamer la parole de Dieu dans sa totalité. Dieu nous l'a confiée et nous demande d'être fidèles, que nous ne fassions aucun compromis, que nous continuions de l'annoncer, même si ces choses sont impopulaires aujourd'hui, mais que nous annoncions la vérité, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que le salut est en lui et en lui seul. Mais aussi proclamer, non seulement tenir ferme, mais proclamer aussi le lien qui nous unit à Christ. C'était l'engagement de Polycarpe. Rappelez-vous ce qu'il a dit, « Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» C'est lui qui m'a sauvé. Le salut est en Christ seul. Nous ne pouvons pas renoncer à Christ. Le véritable croyant ne peut pas se séparer de Christ parce qu'il sait que son salut est en Christ et en lui seul. Et Jésus va donner trois motivations pour rester fidèle. La première motivation concerne leur situation actuelle. Le monde dit que tu es pauvre, mais en réalité, tu es riche. 14e mot sur la feuille. Verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Même au milieu de la tribulation, tu es riche. Jésus parle ici, bien sûr, des bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles en Christ. Pas de certaines, mais de toutes. Nous avons toutes les bénédictions de l'Esprit de Dieu. Nous avons la foi que Dieu nous a donnée. Nous avons la justice dont Dieu nous revêt. Nous pouvons nous tenir dans la présence sainte de Dieu sans crainte. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Dieu nous a donné la justice parfaite de Christ. Et il nous a revêtus de cette justice. Et Dieu nous voit en Christ et en lui seul. Il nous a donné la paix, nous sommes réconciliés avec Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous savons que le prix a été payé, nos péchés ont été condamnés en Christ. Il nous donne la paix, il nous donne l'espérance, il nous donne l'amour, des richesses bien supérieures aux biens de ce monde. Et on peut voir cela, dommage que Jean-Claude ne soit pas là aujourd'hui, mais quand il nous ramène ses expériences de ses voyages dans des pays où les habitants, très souvent, ont beaucoup moins de biens matériels que nous, mais où l'Église montre et témoigne de toutes les richesses qu'elle possède en Christ, où ils ont un amour pour le Seigneur, un amour pour sa parole, où ils sont riches. Le monde dit que nous sommes pauvres. Mais en réalité, nous sommes riches. Nous n'avons peut-être pas toutes les richesses de ce monde, mais nous avons des richesses bien plus grandes. Ces richesses de ce monde, elles, vont disparaître. Mais le Seigneur Jésus-Christ rappelle à son Église, dans la tribulation, « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et nous le sommes en Christ. La seconde motivation de tenir ferme, elle concerne l'avenir. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie », 15e mot sur la feuille. Rappelez-vous la description de la ville de Smyrne. Il y avait cette colline sur laquelle était construit un quartier chic, un quartier huppé qu'on appelait la couronne de Smyrne. Et les croyants pauvres dans leur pauvreté n'avaient sans doute aucun accès à ce quartier, tant il était chic. Et Jésus dit, moi j'ai une couronne bien plus grande, bien plus grande valeur pour vous. Je vais vous mettre sur vos têtes la couronne de vie, symbole de la vie éternelle que je vous donne. C'était aussi intéressant de se rappeler la ville de Smyrne accueillait aussi des épreuves d'athlétisme. Et ces épreuves étaient concurrentes, faisaient de la concurrence à Olympe. Et dans ces épreuves, le vainqueur recevait une couronne. C'est l'image que Paul utilise, par exemple, quand il écrit en 2 Timothée 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il nous donne la couronne. La couronne de vie, bien plus grande, d'une bien plus grande valeur que les couronnes de ce monde. Et la troisième motivation concerne aussi l'avenir. Elle dit au verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » 16e mot sur la feuille. Qu'est-ce que c'est cette seconde mort? On la verra un peu plus loin dans Apocalypse 21. Nous lisons verset 8, la seconde mort est l'étang ardent de feu et de soufre. La seconde mort, c'est la condamnation éternelle de tous ceux qui sont en dehors de Christ, tous ceux qui se présentent devant Dieu au jour du jugement avec leurs péchés et non pas revêtus de la justice de Christ. Eux connaîtront la seconde mort. Un commentateur dit ceci, il dit « Les saints vont peut-être souffrir la mort physique des mains de leurs persécuteurs, mais ils ne connaîtront jamais la mort spirituelle. Ils ne seront jamais séparés de leur Dieu. Ils n'entreront jamais dans les temps de feu. » La seconde mort est la mort éternelle. Jésus dit en Jean 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est passé de la mort à la vie et il a la vie éternelle en Christ. Polycarpe a dû se rappeler de ces choses-là et a pu affronter le bûcher avec courage. Comment est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons affronter la tribulation avec courage? Non pas avec nos forces, mais avec l'Esprit de Dieu qui nous rend capables et qui nous rappelle que pour nous, pour ceux qui sont unis à Christ par la foi, il n'y a pas de seconde mort. Dans un moment d'épreuve, si Dieu le permet, nous pourrons avoir un témoignage aussi vibrant que celui de Polycarpe. Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et peu de temps après s'éteint, car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Le Seigneur Jésus connaît son Église, il connaît la tribulation, il donne un encouragement, il donne une exhortation. Mais certains, peut-être, se disent, « Mais moi, je ne veux pas être comme les croyants. Moi, je ne veux pas, j'ai peur d'être dans la pauvreté à cause de ma foi. J'ai peur d'être calomnié. J'ai peur de connaître la tribulation. » L'antidote contre la crainte se résume dans ce verset. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois, 17e mot sur la feuille. Jésus promet, il promet d'être au milieu de son peuple, d'être avec son peuple. Il promet que cette tribulation ne dure qu'un temps. Un temps qui est limité, qui est défini. Il promet aussi de donner la couronne de vie à ceux qui sont unis à lui par la foi et qui vont vaincre, non pas de leur propre force, parce qu'ils en sont bien incapables, mais avec la force que lui donne. Et ils ne connaîtront pas la seconde mort, mais vivront pour l'éternité dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la lettre à Smyrne. Une lettre courte, mais une lettre pleine d'enseignements pour nous. Que Dieu nous aide à saisir ces choses, qu'il nous aide à méditer sur ces réalités et qu'il nous donne d'être encouragés par sa parole, afin que nous aussi, nous puissions dire au milieu de nos afflictions, oui, le Seigneur connaît, le Seigneur sait. C'est lui qui envoie l'épreuve, mais il le fait pour mon bien, parce qu'il me prépare pour le jour où il viendra me chercher. Comme l'apôtre Paul dira dans Philippiens, en chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. » Que Dieu nous aide à saisir cela, à méditer ces choses et à nous réjouir dans sa parole. Amen.